Il est précisément 5 heures.
Ils s'entendent pas du tout et ils se rassemblent uniquement pour lutter contre Marine.
Au lieu de nous proposer quelque chose, c'est pas un programme ça.
Le tout dernier jour de campagne ce vendredi avec des électeurs parfois désabusés sur les manœuvres, les tractations de cet entre-deux-tours des régionales. Un probable dénouement à la une ce matin avec la découverte d'ossements et de fragments d'un sac 6 ans après la disparition de Lucas Tronche, un ado de 15 ans dans le Gard. Et puis la grande explication à Bruxelles, les dirigeants d'une quinzaine de pays européens ont dit leur cas de vérité à la Hongrie sur la défense des droits des homosexuels. Les coulisses de ces échanges musclés dans ce journal.
À suivre votre journal des sports, notre pressing du matin et puis nous serons en Bretagne dans le Morbihan chez notre ostréiculteur pour les doigts dans l'assiette.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il avait 15 ans à l'époque et il avait disparu en mars 2015 à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. Lucas Tronche, dont on n'avait jamais retrouvé la trace jusqu'à hier matin, semble-t-il, avec une découverte faite par un pompier, Gladys Lafitte.
Ah oui, des ossements possiblement humains, mais aussi des débris de vêtements et un sac similaire au sien ont été retrouvés par des pompiers spécialisés dans les milieux périlleux sur une paroi rocheuse à quelques centaines de mètres seulement du domicile de l'adolescent. Des éléments qui laissent peu de place au doute, hein, mais il faudra néanmoins attendre les examens médico-légaux et aussi génétiques pour confirmer qu'il s'agit bien de Lucas Tronche. Il y a 6 ans, il devait se rendre à la piscine avec son frère aîné, mais ne l'a jamais rejoint. Depuis, les fausses pistes se sont multipliées. Que s'est-il passé exactement ce jour-là? Toutes les hypothèses restent ouvertes. L'enquête continue et devra répondre à cette question. Mais aujourd'hui, pour la famille de Lucas Tronche, vient le temps du recueillement, disent les parents dans un communiqué. Celui aussi du silence, autrefois assourdissant, mais aujourd'hui nécessaire pour continuer désormais sans lui, écrivent-ils. Au début du mois de juin, la famille avait participé à une émission sur M6 en lançant un appel à témoins, sans que cette médiatisation ait un lien avec les découvertes d'hier, assure le procureur de la République de Nîmes.
Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1.
On en vient à la politique et à cette très courte campagne d'entre-deux-tours pour les régionales et les départementales, puisque c'est déjà la fin ce soir à minuit.
Avec un suspense particulier en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le RN de Thierry Mariani était en tête dimanche dernier. Mais le sortant, Renaud Muselier, est soutenu par la droite, La République En Marche, et bénéficie du retrait des écologistes. Hier, on a vu les candidats et leur soutien se démultiplier. Frédéric Michel.
Au Rassemblement national, un seul mot d'ordre, faire voter les abstentionnistes, Fernand, un militant.
Il faut une forte mobilisation dimanche pour empêcher la Macronie de passer et un nouveau visage pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Militant de la première heure, ce couple qui habite Fréjus veut y croire mais redoute le Front républicain.
Ils s'entendent pas du tout et ils se rassemblent uniquement pour lutter contre Marine.
Au lieu de nous proposer quelque chose, c'est pas un programme ça.
Et Louis Alliot, venu soutenir Thierry Mariani, pense déjà à l'après.
Et j'espère bien que demain, avec la victoire en PACA, ce ne sera que le signal pour la grande reconquête qui s'opérera l'année prochaine à l'élection présidentielle et aux élections législatives.
Au même moment, Christian Estrosi organisait à Nice un meeting.
Là où il n'y a eu que 30% de participation, il faut dire autour de vous que c'est l'enjeu de la démocratie et de ce pacte républicain.
Et l'ancien président Nicolas Sarkozy appelait dans Nice Matin à se mobiliser.
Il n'y a pas que Nicolas Sarkozy qui appelle. Et on va gagner. Ça va être juste, mais on sera devant.
Le retrait de la liste de gauche a fait une nouvelle espérance. Et on va garder la région.
Et les militants de chaque camp ont quelques heures encore pour convaincre les abstentionnistes.
Frédéric Michel.
Et il y a un parti qui a retrouvé des couleurs à la faveur du premier tour, c'est le Parti Socialiste.
Avec plusieurs régions, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, où les socialistes peuvent rester au pouvoir. Alors le président du groupe PS au Sénat, Patrick Kanner, ancien ministre de la Ville, veut déjà en tirer un bénéfice en vue de 2022.
J'ai le sentiment que le mouvement positif à notre égard est à nouveau présent pour ces élections régionales et départementales. Il est bien possible aujourd'hui que nous gardions, et je l'espère, nos 5 régions. Nous avons des sortants, 5 régions sur 13 dans l'Hexagone, ce n'est pas neutre. C'est à la fin du combat politique qu'on voit qui en sort gagnant. Il est clair que sur le rapport de force territorial, en nombre de maires, en nombre de présidents de départements, en nombre de présidents de régions, eh bien, la force centrale aujourd'hui de la gauche reste le Parti Socialiste. Alors nous sommes très loin devant LFI qui a très peu d'élus locaux, mais aussi devant Europe Écologie Les Verts. Donc la réalité du rapport de force doit être prise en compte et donc ça doit peser aussi sur nos négociations à venir par rapport aux élections essentielles qui arrivent en 2022 et en particulier bien sûr à la présidentielle.
Patrick Caner au micro Europe 1 d'Hélène Terzian. Des stades de l'Euro de football aux réseaux sociaux, toute une partie de l'Europe s'était inquiétée d'une réforme en Hongrie censée interdire la promotion de l'homosexualité. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a passé une soirée difficile à Bruxelles.
Et il était hier face aux autres dirigeants des pays de l'Union. Isabelle Horry, racontez-nous.
En fait, chaque dirigeant s'est exprimé avec son propre style. Le luxembourgeois Xavier Bettel a livré un témoignage personnel. « Je ne suis pas devenu gay, je le suis », a-t-il expliqué. « Et ma mère déteste ce fait, je dois vivre avec ». Allusion au fait que la loi hongroise prévoit que les parents soient la seule influence sur l'orientation sexuelle de leurs enfants. C'est ensuite que Mark Rutte des Pays-Bas est intervenu brutalement. « Si tu fais des choses comme ça, pourquoi veux-tu rester dans l'Union européenne ?» a-t-il lancé à son collègue hongrois qui lui a répondu qu'il n'avait pas lu la loi, qu'il s'agissait juste de protéger les enfants. La présidente de la Commission européenne a alors lu des extraits du texte qui font l'amalgame entre homosexualité et pédophilie. Emmanuel Macron a demandé « Victor, tu étais un libéral, que s'est-il passé ?» Seuls le Polonais et le Slovène ont soutenu Orban. Pourtant, à l'issue de ce débat intense et passionnel, selon un participant, il n'a pas plié. Il ne va pas retirer sa loi. Il a des élections bientôt, estime une source française qui poursuit. Mais désormais, la situation des personnes LGBT est devenue un sujet politique en Europe.
Isabelle Horry, en ligne de Bruxelles pour Europe 1.
Il est 5h07 sur Europe 1. La mauvaise influence des influenceurs à présent. L'UFC Que Choisir alerte à propos de ces stars des réseaux sociaux qui se transforment parfois en publicitaires.
Oui, sur Instagram, Facebook, YouTube, ils sont suivis par des centaines de milliers de personnes, des communautés à qui ils recommandent parfois d'acheter certains produits. Sauf que Clément Le Saffre, il faut vraiment se méfier des arnaques.
Oui, d'autant que c'est un phénomène grandissant. Les influenceurs, souvent des stars de la télé-réalité ou de YouTube, sont payés par des marques pour faire la promotion de leurs produits. En vidéo, code de réduction, bon plan, tout est fait pour inciter leur communauté, souvent jeune, à sortir la carte bancaire. Exemple avec l'influenceuse Maddy Burciaga.
Sur le site, vous retrouvez les body taps. Vous les avez, comme je vous ai dit, en nude, en noir, vous avez des packs. Voilà, moi j'adore. Profitez-en, vous avez moins 50% sur tout le site.
Dans ces offres, on trouve principalement des vêtements, des gadgets électroniques et des produits de beauté. Sauf qu'il y a pas mal d'arnaques, colis jamais livrés, produits non homologués et surtout aucun moyen de se faire rembourser à cause du dropshipping, une technique sur laquelle Cyril Brosset a enquêté pour l'UFC Que Choisir.
Les sites de dropshipping, c'est des sites qui sont la plupart du temps basés en France mais qui ne font que prendre les commandes et ensuite ils basculent la commande sur un autre prestataire qui est le plus souvent un site chinois, notamment AliExpress. Et après, le site français ne s'occupe plus de rien. En soi, c'est pas illégal. Le problème, c'est que en cas de problème de livraison, eh ben, ils ont personne vers qui se retourner.
Alors l'association de consommateurs a alerté la Direction Générale de la Répression des Fraudes sur ces pratiques. Elle souhaite également faire adopter une charte pour distinguer les bons influenceurs des mauvais.
Clément Le Saffre.
Et on y reviendra avec mon invité à 5h40. On termine ce journal en musique avec le groupe Bon Entendeur, un groupe créé il y a bientôt 10 ans.
Oui, c'est un collectif musical français électro qui s'est fait connaître par ses reprises de chansons de la variété ou par de la mise en musique, de discours lus par des personnalités, Jean Dujardin, François Cluzet. On a redécouvert par exemple Le Temps est bon d'Isabelle Pierre il y a 3 ans. Voilà un nouvel album appelé Minuit, il vient de sortir et il est parfait pour faire la fête.
On a pensé cet album en deux faces. Il y a une face jour, une face nuit. La première face correspond un peu à la continuité du premier album avec des reprises de morceaux francophones des années 60-70. Et en même temps, avec ce contexte où justement on avait toute cette tournée annulée, où on a été confinés, où nous, ce qui nous manquait le plus avant tout, c'était de pouvoir faire la fête. On s'est dit qu'on avait aussi envie de s'intéresser à des morceaux un peu plus dansants et proposer aux gens qui nous suivent des morceaux beaucoup plus festifs.
La fête, c'est la libération, c'est l'insouciance, c'est la liberté. Et c'est ça vraiment qui nous a manqué durant tout un été, un an, quoi.
L'amour, dans les vols, minuit.
Bon entendeur. Qui se sont confiés à ce collectif musical à Angèle Châtelier pour Europe 1.
Ouais. Et une face jour, une face nuit sur cet album. Je ne sais pas laquelle on écoute quand il est 5h du matin. Ça dépend si on se lève ou si on va se coucher. Voilà une idée pour ce week-end. Bon entendeur, c'était le journal de François Geffrier. 5h10 sur Europe 1. Et nous ouvrons le journal des sports. Bonjour Lénaïque Monnier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Et c'est un nouveau tournoi qui commence pour l'équipe de France à l'Euro.
Oui, les Bleus quittent Budapest ce matin pour Bucarest où ils affronteront la Suisse lundi soir avec des phases de poule difficiles à analyser, des cartons et une multitude de blessés. Les Bleus ont-ils une chance de se qualifier? Et si oui, un destin dans cet Euro? Écoutez l'avis de notre consultante Aline Riera.
Ils sortent premiers d'un groupe qui était le groupe de la mort avec deux possibles favoris encore dans le groupe. On finit en tête de ce groupe-là. Alors, dans le contenu, beaucoup diront que ce n'était pas parfait. Les résultats sont là. Moi, je suis très pragmatique. Les résultats sont là. On a rigolé de notre match nul contre la Hongrie. Les Allemands se sont cassés les dents contre la Hongrie, sont passés tout proche de la correctionnelle sur la fin de match en étant menés deux fois. Donc voilà, je trouve que c'est un premier tour qui était extrêmement difficile parce qu'il faut s'étalonner tout de suite. On n'a pas trop le temps. On a pris l'Allemagne d'entrée. Je les mets aussi, les Français, dans le panier des favoris, même titre que l'Italie, que la Belgique. Les Pays-Bas aussi, et puis voir ce que vaut l'Angleterre qui va prendre un gros morceau d'entrée avec l'Allemagne aussi.
Aline Riera, consultante Europe 1 pendant l'Euro.
Alors on le disait, l'inquiétude ce matin, c'est cette infirmerie qui se remplit très sérieusement chez les Bleus.
Oui, après Lucas Digne et Lucas Hernandez, après Dembélé qui a déjà quitté le groupe, deux autres joueurs sont touchés. Thomas Lemar et Marcus Thuram, ça commence à faire beaucoup. Un banc appauvri, ça risque de forcer Deschamps à mettre des joueurs à des postes qui ne sont pas le leur ou bien à instaurer une défense à trois, on verra. En tout cas, c'est la défense qui prend l'eau alors que le milieu de terrain reste costaud. Faut dire qu'il y a un patron, Paul Pogba, qui suscite l'admiration du jeune Jules Koundé.
Il a encore été rayonnant avec une magnifique passe décisive pour Karim. On connaît la qualité du joueur. On est très content de voir comment il performe en ce moment et avec nous. C'est un joueur qui est très important, qui est clé pour cette équipe. Donc on est très content qu'il ait pu aider l'équipe dans ce sens-là.
Jules Koundé, admiratif donc de son aîné, Paul Pogba.
Allez, on passe au rugby avec ce soir la finale du top 14.
Oui, qui va soulever le bouclier de Brennus. Ça va se jouer entre La Rochelle et le Stade Toulousain, comme en Coupe d'Europe il y a quelques semaines. Ce n'est pas banal. On écoute le pilier rouge et noir, Cyril Baye.
De faire deux finales dans une saison, c'est bien. Ça valide aussi le travail qu'on a fait durant la saison. Elle a été, comme vous l'avez dit, particulière, très difficile et aussi très disputée. Donc voilà, on a eu des matchs assez difficiles. On a perdu quand même pas mal de fois aussi à la maison. Donc voilà, c'est une saison qui est particulière, mais c'est sûr que de faire deux finales, c'est bien et ça valide aussi le travail qu'on a fait tout au long de cette saison.
Cyril Baye avec Marie Guida, coup d'envoi du match à 20h45. L'autre événement, évidemment, c'est le départ demain de Brest du Tour de France. Nous entendrons le champion du monde, Julien Alaphilippe, dans une heure.
Et d'ici là, 5h30, on fera le tour de ce nouveau parcours, enfin de parcours de cette année, le parcours du Tour de France avec Marguerite Lefebvre, qui est sur la zone du départ et qui va suivre le Tour de France pour Europe 1. Merci Lénaïque Monnier, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Et il nous reste à découvrir le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien, il y aura des courses en semi-nocturne sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 404 French Way of Life. Voilà une pouliche qui, lorsqu'elle évolue sans ses quatre fers, réalise des survaleurs. Elle est en effet invaincue des ferrés des quatre pieds, ce qui sera le cas en fin d'après-midi sur l'hippodrome de Vincennes, une configuration utilisée à bon escient par son entraîneur Grégoire Well. Dès lors, elle devrait pouvoir s'adjuger sa 13e victoire en seulement 23 tentatives. Notez bien, pour Vincennes, réunion 1 dans la quatrième course, le numéro 4, French Way of Life.
Merci Thierry Léger, on vous retrouvera dans une vingtaine de minutes plutôt pour les pronostics du quintet du jour. A tout à l'heure.
Europe 1.
Il est 5h14 sur Europe 1. Très bon réveil. Le 5-7 continue en direct avec toute l'équipe et nous allons ouvrir les journaux ce matin. Qu'est-ce que vous avez lu, Omblin?
Et si deux ex-présidents décidaient de faire la paix pour l'intérêt supérieur du pays? C'est la thèse du nouveau film d'Anne Fontaine. Attention, c'est une comédie.
Avec deux présidents
exactement.
Qu'on retrouve avec notamment Jean Dujardin. On va parler de ce film, de ses coulisses. C'est dans la presse et on va parler aussi de la forêt de Verdun qui est menacée. A tout de suite.
Europe 1, Sébastien Krebs.
5h15 sur Europe 1, l'actualité ce matin, c'est notamment aux États-Unis. Ce sont désormais 99 personnes qui sont recherchées après l'effondrement d'un immeuble d'habitation de 12 étages dans l'agglomération de Miami. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. On compte un mort et à ce stade, des opérations de secours continuent. Y a-t-il un essoufflement de la vaccination en France? 200 000 personnes reçoivent une première dose de vaccin chaque jour en ce moment. C'est trop peu, regrette le Premier ministre Jean Castex, qui alerte sur un ralentissement des prises de rendez-vous. Et puis, il avait attaqué à la machette des militaires de l'opération Sentinelle au Carrousel du Louvre. C'était en 2017. Un homme de 33 ans, condamné hier à 30 ans de prison par la Cour d'assises spéciale de Paris. Son nom est par ailleurs inscrit au fichier des auteurs d'infractions terroristes.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour le pressing du jour avec autour de moi Amblin Roche et Martin Lange. On commence par les unes de vos journaux. Avec quelques inquiétudes ce matin, on parlait de la vaccination à l'instant. Vigilant face aux variants, c'est le titre de La Voix du Nord. Le variant Delta va-t-il gâcher notre été, se demande aujourd'hui en France. Le département des Landes est particulièrement sous surveillance. Ce variant qui change la donne, titre Sud-Ouest, ça va piquer, annonce déjà Libération. Les élections régionales également à la une, les enjeux du second tour dans la Nouvelle République. Un scrutin aux multiples inconnus, écrit La Croix. Et la Macronie en plein doute dans l'opinion. Nicolas Sarkozy est à la une en région PACA. Entretien accordé à La Provence et à Nice ce matin. L'ancien président appelle à voter pour Renaud Muselier, le sortant, qui est au coude à coude avec le RN Thierry Mariani. Le suspense reste entier. Suspense aussi en Bretagne. C'est le titre à la une du Télégramme. Et puis le rugby avec la finale du top 14 ce soir. Et le Stade toulousain à l'assaut d'un nouveau bouclier. C'est la une de la Dépêche du Midi. Le Stade toulousain qui affronte donc La Rochelle. Voici les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Et Amblin, donc deux présidents au cinéma.
Oui, c'est des héros qui s'appellent Nicolas et François, des personnages familiers dont les patronymes ne sont jamais prononcés. Ils ont effectivement dirigé la France, chacun pendant 5 ans. La réalisatrice Anne Fontaine présente son nouveau film baptisé tout simplement Président, et c'est le magazine Elle qui en parle. Ça raconte donc l'histoire de ces deux anciens chefs d'État qui s'associent pour contrer l'ascension d'une candidate d'un parti d'extrême droite.
On commence à créer un parti. Je sais pas, la France pour toujours, par exemple.
Bonjour à tous.
On fait la campagne, et on est élu. Et la démocratie est sauvée, voilà. En gros.
Voilà, en gros. Hein.
En gros.
Tout un programme.
Alors, c'est Sarkozy et Hollande. Quoi,
voilà, vous l'imaginez bien, on n'est pas du tout dans le biopic. Hein. Anne Fontaine prend de très grandes libertés avec la réalité. C'est drôle, caustique, ironique. Elle prévient au début du film, Nicolas Sarkozy mesure 1m82, François Hollande pique de grosse colère. Toute ressemblance avec des personnes existantes n'est purement pas fortuite. François et Nicolas sont joués par Grégory Gadebois et Jean Dujardin qu'on vient d'entendre à l'écran. Leur sujet de prédilection reste un certain ancien président de l'économie devenu président à son tour. Donc les piques fusent. Si à aucun moment il n'a été question d'obtenir des validations ou de faire relire son scénario, la cinéaste a cependant prévenu les doubles réels de ses personnages par courtoisie. Elle a quand même demandé l'avis de François Hollande sur une chose, car ce drôle de buddy movie a été essentiellement tourné en Corrèze. Oui. Il lui a donc conseillé quelques lieux qu'on voit à l'écran. François Hollande a eu droit d'ailleurs fin avril à une projection privée avec quelques proches. Anne Fontaine, tremblante, raconte s'être assise quelques rangées derrière lui pour observer ses réactions. Eh bien, il a ri, dit-elle, et de bon cœur a priori. Quant à Nicolas Sarkozy, on apprend qu'il ne regarde jamais les films qui le concernent. Président d'Anne Fontaine sortira en salle mercredi prochain. Et selon le magazine Elle, le film met surtout en lumière une forme de mélancolie présidentielle.
Mais ça ne doit pas leur déplaire quand
ils
on parle de
adorer.
Cette
et puis la thèse est drôle.
Président, donc c'est au cinéma. Autre sujet ce matin, et une nouvelle bataille pour Verdun. C'est avec ce titre que le Figaro nous alerte sur la situation de la forêt de Verdun, victime d'un insecte et de la sécheresse. Les épicéas du sanctuaire de la Grande Guerre sont menacés Et cette forêt est particulièrement symbolique parce qu'elle a été plantée à la fin des années 20, donc après la guerre de tranchées. Et ces arbres sont un peu considérés comme le linceul, c'est l'expression utilisée, le linceul du champ de bataille. Alors le Figaro raconte qu'une course contre la montre est engagée pour préserver le site mémoriel. Les premières alertes datent d'il y a 2 ans, lorsqu'une dizaine d'épicéas ont changé brutalement de couleur, se sont effrités et sont morts. Aujourd'hui, c'est colossal. Les souches se comptent par dizaines. Les branches jaunes comme de la paille gisent au sol, notamment près de l'ossuaire de Douaumont. Après 2 années de sécheresse, la catastrophe progresse. Verdun est en train de mourir une seconde fois, écrit le Figaro. Et c'est un désastre écologique qui frappe un tiers des forêts françaises. À Verdun, c'est un insecte, le scolyte, qui s'attaque aux arbres. Combiné à la sécheresse, il finit par tuer tous ces arbres. Et depuis le mémorial de Verdun, c'est particulièrement impressionnant. On aperçoit toute la forêt attaquée. Et les trous d'obus ont été remis au jour. Tous les épicéas de Verdun sont morts, estime l'ONF. Et les pins noirs devraient suivre pour les experts. Alors il faut replanter, mais il faut replanter d'autres espèces, d'autres essences plus résistantes à la sécheresse, comme des pins maritimes ou des cèdres de l'Atlas. Voilà.
Il ne devait pas y penser en 1920.
Chercher des cèdres de l'Atlas et des pins maritimes.
À la sécheresse à Verdun.
C'est ça. Il faut aller chercher désormais des arbres du sud, des arbres méditerranéens pour replanter à Verdun, dans l'Est. Il faut sauver la forêt de Verdun. C'est à lire dans le Figaro ce matin. Martin, on termine avec vous.
Oui, une question ce matin, Sébastien. Est-ce que vous savez comment Thomas Pesquet lave son linge dans l'espace?
Mais il ne le lave pas.
Pas mal,
enfin, j'espère quand même, parce qu'il reste un moment.
Exactement. Si, au bout de 6 mois à bord de l'ISS, hein, l'astronaute français se change évidemment. Hein. Puis il fait de l'activité physique. Hein, vous en aviez parlé, Sébastien, quand vous nous parliez de son emploi du temps à bord de l'ISS. Il sue donc, mais où finissent ces vieux t-shirts sales?
Le problème, c'est que c'est l'eau, ça fait des. L'eau est solide.
Alors, peut-être. Je ne peux pas vous dire. Mais figurez-vous que ces t-shirts sont donc brûlés. Hein, ils terminent dans des poubelles de l'ISS qui, une fois remplies, sont détachées et lâchées telles quelles dans l'espace, elles flambent au contact de l'atmosphère terrestre.
Il y a suffisamment de t-shirts pour tenir tout le...
Exactement. Ouais, pas très écolo en tout cas tout ça.
C'est nous, on part en vacances l'été. Quoi.
Mais alors pourquoi il n'y a pas de lave-linge dans l'ISS? Eh bien parce que la station dispose quand même de technologies beaucoup plus révolutionnaires à son bord qu'une simple machine à laver. Mais pour 2 raisons, il n'y en a pas. D'abord la place, mais surtout l'eau, une denrée très rare dans l'espace.
Et oui. Alors ça peut sembler dérisoire, mais c'est un sujet, hein, le linge sale pour la NASA, sujet pris très au sérieux.
Oui, car comme vous le disiez, Omblin, hein, pour l'instant, un astronaute qui part dans l'espace doit emmener des tonnes de vêtements propres, 68 kilos exactement pour un an. Pesquet, donc, il reste 6 mois, donc dû partir avec 34 kilos, ça fait déjà une belle valise. Mais on l'a dit, hein, dans une mission spatiale, chaque centimètre carré compte. Et puis si la NASA veut vraiment installer des bases sur la Lune ou sur Mars, hein, comme elle l'a promis, il va quand même falloir résoudre ce problème de machine à laver. Elle s'est donc associée à une grande entreprise américaine, Procter & et Gamble, spécialisé dans la lessive, la multinationale qui a déjà conçu un détergent spécial qui va être envoyé à bord de l'ISS pendant 6 mois pour voir comment il évolue. Hein. Il pourrait rapidement suivre des stylos détachants et des lingettes. Et puis Procter & Gamble travaille aussi sur la première machine à laver de l'espace, compacte, très économe en eau et surtout équipée d'un système de traitement des eaux usées pour que cette eau puisse être réutilisée. Ah, oui. Comment les astronautes lavent-ils leur slip dans l'espace? C'est à lire sur le site de Space.
C'est un sujet.
Exactement.
Mais ça, après, il faudra trouver comment l'eau peut se mélanger. Vous savez, l'eau, ça fait des grandes bulles solides qui flottent en apesanteur. Ça rend les choses un peu compliquées pour laver.
Beaucoup de questions, en tout cas.
En tout cas, si on faisait ça en vacances, effectivement, si on jetait chaque t-shirt à la fin de la journée, on n'aurait pas fini. Non. Merci à tous les deux. C'était le pressing du jour, 5h24.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et pour les doigts dans l'assiette, nous sommes dans le Morbihan ce matin. Bonjour Renan Henry.
Bonjour.
Vous êtes notre ostréiculteur, on vous retrouve très régulièrement. Comment allez-vous?
Ça va. Avec le beau temps, tout va bien.
Bon, qu'est-ce qui vous occupe en ce début d'été dans vos parcs à huîtres?
Eh bien là, nous rentrons dans la période de reproduction des huîtres plates, les belons. Donc c'est en ce moment qu'on va commencer à mettre à l'eau sur nos parcs ce qu'on appelle les capteurs de naissain d'huîtres plates. Oui. C'est-à-dire que On va immerger dans l'eau, sur nos parcs, des structures métalliques sur lesquelles sont fixées des barres de coupelle. Alors c'est grand comme un CD. Et ces structures vont être donc posées sur le parc. Elles ont été préalablement chaulées, c'est-à-dire qu'on y dispose on les plonge dans un LED chaud pour créer une petite pellicule blanche sur les coupelles. Et on va les mettre donc sur nos parcs et on va attendre que nos huîtres plates rejettent les larves d'huîtres.
Ouais.
Et ces larves vont venir se fixer sur les coupelles. Alors c'est un moment très très important pour nous parce que c'est le moment de la reproduction. Si on loupe la reproduction, eh bien 3 ans après, parce qu'il faut au minimum 3 ans, voire 4 ans pour avoir une huître de taille marchande. Si on loupe la reproduction, bah, 3 ou 4 ans après, on n'a pas de production. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important pour nous. Et on commence là, on a commencé aujourd'hui à mettre nos coupelles à l'eau. Et pour ne pas louper le moment important, parce qu'il nous faut quand même une dizaine de jours pleins pour mettre toutes nos structures à l'eau, eh bien, il y a plusieurs facteurs scientifiques. Hein. On va vérifier l'état de maturation des huîtres, les larves dans l'eau. Et évidemment, il faut que la température de l'eau soit suffisante. Hein. Il faut 18 degrés. Alors, 18 degrés, ça peut paraître faible, mais c'est 18 degrés en profondeur. Donc,
Vous les avez là aujourd'hui déjà ?
Oui, on est entre 18 et 19 degrés. Et la dernière chose qu'on regarde, c'est ce que les anciens regardaient, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les outils scientifiques pour savoir comment ça évoluait. Il y a un point de repère que les anciens regardaient, c'était les châtaigniers.
Ah.
Et quand les châtaigniers commencent à être en fleurs, eh ben, on sait que c'est le moment fatidique pour disposer nos capteurs à l'eau.
Voilà.
Donc, chaque ostréiculteur a son châtaignier référent et ça y est, les châtaigniers sont en fleurs, donc c'est le top départ.
Donc c'est le top départ. Et donc, alors ça c'est intéressant, c'est les huîtres qui naissent aujourd'hui donc, dans ce processus de reproduction, on ne les consommera que dans 3 ou 4 ans. Donc c'est un processus long avant qu'elles arrivent dans notre assiette.
Il ne faut pas se louper. Et bon, ça concerne uniquement les huîtres plates hein, en Bretagne. D'ailleurs, le seul et unique berceau de reproduction de huîtres plates, c'est la baie de Quiberon. C'est ici et nulle part ailleurs qu'elles se reproduisent. Donc, la baie de Quiberon est pour nous un joyau à préserver. Et la qualité, elle est là pour ça.
Voilà, bah écoutez, bon courage dans tout ça. On compte sur vous parce que dans 3 ans, on aura envie de manger des huîtres. Donc, c'est le moment. Les châtaigniers sont en fleurs et c'est le début de la reproduction. Merci, Ronan Henry. À bientôt dans Les Doigts dans l'Assiette.
Merci. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Perdu sous ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais dans un miroir sans teint, d'où je te regarde t'en sortir à merveille, épier ton bonheur. Me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. 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 Le reste, je te le laisse.
Clara Luciani sur Europe 1. Le reste, on va passer à la météo, 5h29.
Alors je le disais, des pluies s'échappent, elles s'échappent par les frontières de l'Est. En Alsace, il y a encore quelques ondées, elles vont se terminer, elles vont partir vers l'Allemagne. Et nous aurons donc un temps relativement ensoleillé sur une bonne moitié de la France. Allez, disons Lorraine, Alsace, Bourgogne, Massif central, Sud-Ouest, région Rhône-Alpes, ce seront des régions qui seront privilégiées par des éclaircies durables pratiquement toute la journée. En Méditerranée, ça ne change pas, il y a toujours un ciel très dégagé, mais avec du vent, et ça c'est moins sympathique. Mistral et Tramontane se feront autour de 60-70 km/h. Et puis, des régions où là, ça va se gâter, malheureusement. Certes, ce matin, il fait encore relativement beau sur les Pays de la Loire, le Centre, la région parisienne, la Champagne et les Ardennes, mais dans le courant de l'après-midi et de la soirée, ces régions verront le temps devenir de plus en plus nuageux et même des petites pluies apparaître. Pourquoi ? Parce qu'une perturbation arrive par les côtes de la Manche et dès ce matin, ces côtes de la Manche seront sous l'emprise d'une humidité assez particulière. Merci certaine. Les températures maximales entre 18 et 23 degrés, 21 à Paris et dans le sud, allez, un peu de chaleur. 28 à Marseille et 30 à Bastia.
Merci Laurent Cabrol, on vous retrouvera juste avant 6h. À tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Et bonjour Marion Calais.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Tout de suite un nouveau journal sur Europe 1, 5h30.
On est vraiment face à un embouteillage de patients. Dans un quart des cas, les usagers ne sont même pas au courant de la date à laquelle leur prochaine opération devrait se tenir.
Embouteillage après les déprogrammations d'opérations chirurgicales liées au Covid. Les patients doivent attendre 7 mois en moyenne. L'UFC Que Choisir s'en inquiète. À deux jours du second tour des régionales, les consignes des candidats déçus seront-elles suivies ? Reportage dans les Hauts-de-France auprès des électeurs marcheurs appelés à voter Xavier Bertrand. Dans ce journal aussi, le verdict attendu dans le procès de Valérie Bacot aujourd'hui pour l'assassinat de son mari. Et le Tour de France départ demain de Brest.
Après le journal, le monde sans foi ni loi des influenceurs sur Internet. Rémunérés pour vendre des produits sur les réseaux sociaux. Mais de la publicité pas toujours explicitée et attention aux arnaques, alertent les associations de consommateurs. On en parle avec ma première invitée dans 10 minutes, Gwarlane de Kervillers, spécialiste du marketing digital.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La situation s'améliore à l'hôpital. Moins de 1500 patients en réanimation, au plus bas depuis début octobre. Malgré tout, le fonctionnement des services, notamment en chirurgie, reste profondément impacté. Et un an et demi après le début de la crise sanitaire, le planning des opérations, dont un certain nombre ont dû être déprogrammés, est toujours très chargé.
Si bien que des patients doivent attendre de longs mois avant de pouvoir être opérés. C'est ce que pointe Anne Le Gall, l'UFC Que Choisir.
Oui, sur la base d'une enquête auprès de 800 patients, l'association de défense des consommateurs a calculé que sur des opérations annulées en pleine crise sanitaire, donc entre mars 2020 et mars 2021, 40% n'ont toujours pas eu lieu et près d'un tiers n'ont même pas été reprogrammés, explique Lauriane Lemaine, chargée de mission santé à l'UFC Que Choisir.
Aujourd'hui, on est vraiment face à un embouteillage de patients. Et dans un quart des cas, les usagers ne sont même pas au courant de la date à laquelle leur prochaine opération devrait se tenir. Donc on imagine les conséquences en termes de stress. Normalement, on est tous censés pouvoir accéder aux soins quand on en a besoin.
Et les patients qui ont eu la chance de voir leur opération reprogrammée ont attendu en moyenne 7 mois avant d'obtenir un nouveau rendez-vous. Dans 80% des cas, ces malades estiment subir en conséquence de l'inconfort, des douleurs ou du stress. 5% évoquent aussi de même des pertes de chance avec un retard de diagnostic. L'UFC Que Choisir en appelle donc au pouvoir public pour qu'il facilite le recours aux cliniques privées pour la prise en charge de ces opérations déprogrammées.
Une précision signée Anne Le Gall pour Europe 1 du côté de l'exécutif. La préoccupation pour l'instant, c'est la vaccination. Les premières injections à la baisse. Nous devons accélérer encore, a écrit Emmanuel Macron hier sur Twitter. Et rester vigilant, car le variant Delta se diffuse.
La politique, c'est le mot de l'entre-deux-tours. Mobilisation, faire en sorte que les électeurs se rendent aux urnes dimanche pour les régionales et les départementales.
Après l'abstention massive de la semaine dernière, notamment chez les jeunes, un millier de militants associatifs, politiques et citoyens exhortent la jeunesse à aller voter dimanche. Tribune sur le site de nos confrères du Journal du Dimanche. Se mobiliser, mais pour qui ? Certains s'interrogent encore. À l'image d'une partie des marcheurs des Hauts-de-France, leur candidat, Laurent Pietraszewski, a été éliminé dès le premier tour. Et s'il a appelé à voter Xavier Bertrand contre le RN et les écologistes, pas sûr pour autant que la consigne soit appliquée. Reportage à Lille de Lionel Gougelot pour Europe 1.
Cet appel de Laurent Pietraszewski à voter Xavier Bertrand, Adèle l'attendait dès dimanche soir pour que soit réaffirmé clairement le barrage au Rassemblement National.
Il a donné des consignes très claires et qui renforcent évidemment tout ce qui est démocratie et qui s'oppose au Rassemblement National. Moi je me réjouis vraiment, il n'a pas hésité et ça pour nous c'est rassurant quand même.
Et pour beaucoup de sympathisants marcheurs comme Louis, le vote Xavier Bertrand sera un vote de raison avec toutefois quelques réserves.
Xavier Bertrand, je le trouve moi très très dur et un petit peu, c'est nul aujourd'hui.
ce qui se passe. Et ça, moi, ça m'agace. Bon, après, il est à la place d'eux, donc je vais pas, on va pas ni s'abstenir ni voter pour autre. Donc j'y vais pour Xavier Bertrand parce que c'est comme ça. C'est, je peux pas dire c'est le moins mauvais, mais bon. Après, j'aimerais bien qu'on se calme un peu sur la critique systématique et facile.
Et ce qui chagrine aussi Eric, c'est de voter pour un futur challenger d'Emmanuel Macron.
Élu président du conseil régional, il va le quitter pour œuvrer dans ses visions politiques présidentielles. C'est pour moi antinomique. C'est voter pour quelqu'un qui va aller, à la limite, combattre nos idées, puisqu'on va soutenir Macron et il va se positionner face à Macron.
Alors pas sûr que dimanche soir, les voix de La République En Marche du premier tour s'additionnent toutes à celles de Xavier Bertrand. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
En Ile-de-France, la bataille des soutiens. Lionel Jospin au secours de la liste de gauche emmenée par Julien Bayou, alors que plusieurs têtes d'affiche du PS ont de leur côté annoncé leur ralliement à Valérie Pécresse.
Oui, comme l'ancien président de la région Jean-Paul Huchon ou l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qu'il a annoncé hier sur Europe 1, une annonce que critique l'insoumise Clémentine Autain, dont la liste a fusionné avec celle de Julien Bayou.
Manuel Valls, c'est pas nouveau, hein. Il est en croisade depuis très longtemps avec la majeure partie de la gauche. Quand il est parti en Espagne, il n'a eu aucune pudeur pour aller manifester avec l'extrême droite. Et aujourd'hui, il revient en France pour faire des leçons de lutte contre le Rassemblement national, tout en appelant à voter pour Valérie Pécresse, qui elle-même marche dans les pas de l'extrême droite. Tout ça n'a absolument aucun autre sens que de voir à quel point cet homme a perdu toute boussole. Vous savez, il avait théorisé il y a deux gauches irréconciliables. En réalité, il y a la gauche et il y a Manuel Valls, et les deux sont irréconciliables. Je ressens beaucoup d'agitation, de fébrilité en fait, hein, du côté de Valérie Pécresse, qui est pourtant annoncée comme étant la gagnante. Et en réalité, progressivement, les uns et les autres se rendent compte que oui, nous pouvons gagner la région et enclencher un changement de cap assez profond. Et c'est ce qui effraie et c'est ce qui motive sans doute toutes ces injures, ce manque de confrontation sur le fond.
L'insoumise Clémentine Autain avec Claudia Bertram pour Europe 1.
5h36, il sera rendu aujourd'hui le verdict dans le procès de Valérie Bacot devant les assises de Saône-et-Loire.
Cette femme accusée d'avoir tué son mari qui, durant des années, l'a battue et prostituée. Hier, l'avocate de la partie civile a réclamé une condamnation pour l'exemple, car un crime n'est jamais une solution. Mais tout au long de la semaine, c'est bien une femme victime qui est apparue devant les jurés. Jean-Luc Boujon a suivi les audiences pour Europe 1.
À la barre, Valérie Bacot parle d'une voix timide en ne cessant de s'excuser quand elle évoque sa vie, quand elle raconte les progrès qu'elle fait avec sa psychologue. Elle ne peut s'empêcher de dire à la présidente « Vous devez me trouver cinglée » ou alors « Je suis bête quand même, la cruche c'est moi ». Cette femme qui, durant des années, a subi les violences et les humiliations de son mari a pourtant passé un cap énorme durant cette semaine de procès. Hier, elle a enfin pu dire « Je suis quelqu'un, je ne suis plus une chose », des mots qui ont ému jusqu'à son avocate, maître Janine Bonadjunta.
Aujourd'hui, elle montre une image d'elle très positive. Elle qui avait été isolée, séquestrée et emprisonnée, a réussi à rebondir en trouvant un emploi, en continuant à élever ses enfants. Je vous avoue que j'ai eu les larmes aux yeux là tout à l'heure.
Mercredi a sans doute été un jour décisif quand la famille de son mari est venue dire quel monstre il était. Son frère a parlé d'un pervers et d'une bête sauvage. L'une de ses sœurs est venue raconter les viols qu'il lui avait infligés. C'est le procès de toutes les femmes battues, estime Sandrine Dubouis, qui préside le comité de soutien à Valérie Bacot.
Le combat de Valérie, c'est aussi pour toutes ces femmes qui actuellement vivent des violences et qui n'ont pas encore les moyens de porter plainte. Donc j'espère une prise de conscience au niveau peut-être de nos élus. Il y a vraiment urgence, urgence avec un grand U. Stop, on n'attend pas, on n'attend plus.
Le verdict est attendu en fin de journée. Une pétition pour la libération de Valérie Bacot a déjà recueilli plus de 700 000 signatures. Chalon-sur-Saône, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Des expertises médico-légales doivent encore être pratiquer pour savoir si les ossements retrouvés hier à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard sont ceux de Lucas Tronche. L'adolescent de 15 ans avait disparu en mars 2015.
L'image est impressionnante, celle d'un immeuble qui s'effondre. C'était la nuit dernière près de Miami aux États-Unis. Et ce matin encore, les secouristes sont à la recherche d'une centaine de disparus.
Mais au moins une personne a été retrouvée morte dans cette catastrophe, pour l'heure encore inexpliquée. Daniela Levin-Cara est la maire du comté de Miami-Dade.
C'est une situation incroyable et inimaginable, aucun de nous n'aurait pu la prédire. Mais nous avons les bonnes personnes sur le terrain, les équipes de secours sont sur place depuis qu'on les a appelées à 1h38 ce matin, elles ont pu sauver de nombreuses personnes. 102 personnes ont été identifiées, on sait où elles se trouvent et sont en sécurité, nous avons encore 99 personnes qui sont portées disparues.
who are unaccounted for.
La maire du comté de Miami-Dade. Brest, plutôt que Copenhague, crise sanitaire oblige, le lieu de départ du Tour de France a été modifié et c'est donc en Bretagne que va s'installer le peloton à partir de demain, avant de s'échapper en altitude. Tour d'horizon de ces quelques 3400 km qui attendent les coureurs, avec Marguerite Lefebvre.
Les organisateurs voulaient du spectacle dès les premières étapes et ce sera sans doute le cas en Bretagne, avec deux premières journées très accidentées, pleines de bosses taillées pour les punchers et pourquoi pas un certain Julien Alaphilippe. Après la Bretagne, diagonale toute, direction les Alpes, que les coureurs atteindront dès la fin de la première semaine. Le peloton descendra ensuite vers le Vaucluse et l'une des étapes les plus en vue de ce Tour de France, la double ascension du Ventoux. Ce sera le 7 juillet avant de filer vers les Pyrénées et ses pentes mythiques, le Peyresourde, le col de Portet ou encore le Tourmalet. Vous le voyez, de la montagne, il y en aura. Mais moins que l'an dernier, 5 étapes seulement. Les sprinteurs, eux, auront 8 fois l'opportunité de lever les bras. Le patron du Tour, Christian Prudhomme, a voulu rééquilibrer un peu le parcours.
Notre volonté, c'est vraiment de varier, c'est pas de durcir. On met au maximum 2 étapes consécutives faites pour les sprinteurs. Et il y a un retour des étapes de moyenne montagne, des étapes dites accidentées. Il y en aura 5, en fait, dans le prochain Tour. C'est souvent sur ces étapes-là, qui ne payent pas forcément de mine, que les surprises peuvent être les plus grandes.
Et des surprises, il pourrait y en avoir jusqu'au bout, jusqu'au contre-la-montre final, la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées, 31 km au milieu des vignes, entre Libourne et Saint-Émilion. Ce sera le juge de paix de ce Tour 2021.
Marguerite Lefebvre qui suivra pour nous le Tour de France tout au long de ces 3 semaines.
Et vous le suivrez tous les jours sur Europe 1, ce Tour de France donc qui démarre demain depuis la Bretagne. C'était le journal de Marion Calais. Il est 6h20 sur Europe 1. Et on retrouve Thierry Léger pour les pronostics du quintet du jour.
C'est sur l'hippodrome de Vincennes que se disputera ce quintet, une course au trot attelé qui réunira 13 chevaux qui en découdront sur la distance de 2850 mètres, avec un favori solide, le numéro 5, El Presidente, titulaire d'un compte en banque déjà bien rempli, proche des 200 000 euros, glané en 55 sorties, qui se sont soldées par 17 victoires et 10 places dans les 3 premiers. Entraîné dans le sud-est, son mentor Jean-Marie Roubaud effectuera le déplacement avec de légitimes ambitions. On lui opposera les numéros 11, Caïd Doré, en regain de forme chez son nouvel entraîneur Bruno Marie, 9, Dolce Deban, une jument en acier trempé qui n'a jamais déçu avec Damien Bonne à son sulky, et 2, Express du Gers, déféré des 4 pieds et confié au crack driver belge Christophe Martens. Enfin les numéros 10, Catch My Love, 7, Vlad Del Ronco, 1, Ready Rib et 13, Emperor the Best compléteront ma sélection. Mon pronostic, 5, 11, 9, 2, 10, 7, As et 13.
Merci à vous Thierry Léger et tous vos pronostics sont à retrouver sur europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
5h42 sur Europe 1. On vous parle tous les jours des réseaux sociaux dans le 5-7 parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. Il s'y vend aussi beaucoup de choses et le business s'y est installé via ce qu'on appelle les influenceurs. Mais attention, méfiance, alerte les associations de consommateurs. Bonjour Guarlane de Kervillers.
Bonjour Sébastien.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes spécialiste du marketing digital et des réseaux sociaux, professeur à l'IESSEG. D'abord, peut-être ce qu'on peut commencer par dire, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui, ils sont devenus essentiels pour les marques.
Tout à fait. C'est incontournable, en fait, notamment pour toucher la nouvelle génération, qu'on appelle souvent la génération Z, qui en fait s'éloigne, on va dire, des médias classiques, de la télévision ou de la radio, et qui est le plus souvent sur les réseaux sociaux, sur des plateformes comme Facebook, Instagram ou TikTok. Et donc, en fait, pour que les marques puissent parler à cette cible, elles n'ont d'autres moyens que de passer via ces réseaux sociaux et indirectement par, effectivement, les influenceurs qui sont, on va dire, les maîtres dans ces nouvelles plateformes.
Ça veut dire que ça devient plus efficace d'aller rémunérer un influenceur sur les réseaux sociaux que de diffuser un spot de publicité à la télévision ou à la radio ?
Oui, tout à fait, pour deux raisons. Donc, la première, c'est qu'effectivement, c'est mieux perçu par les jeunes qui voient moins directement une promotion publicitaire de la marque, ce qu'ils rejettent en quelque sorte. Et d'autre part, c'est moins coûteux que de passer par un média classique.
Ouais.
Donc c'est vrai que les marques y voient un double intérêt, à la fois en termes de mécanisme de persuasion et de coût, on va dire, au contact par ces nouvelles plateformes.
Alors c'est colossal, hein, je disais 500 000 influenceurs contracteraient des partenariats publicitaires, marché à 15 milliards d'euros. Sauf que vous le disiez, pour le consommateur, c'est pas toujours très clair. Est-ce qu'il peut y avoir confusion? Est-ce qu'on se rend compte systématiquement qu'il s'agit de publicité?
Alors il faut savoir effectivement que c'est un domaine qui est en pleine croissance, mais aussi justement en pleine structuration et organisation, et les règles sont encore relativement floues, ce qui permet effectivement à certains peut-être moins honnêtes de s'engouffrer dans la brèche. Mais c'est vrai que pour ce qu'on appelle les followers, qui sont donc la communauté qui suivent un influenceur, il est parfois difficile de différencier le contenu qu'on appelle organique, qui est le contenu de l'influenceur qui parle de sa vie, de ses passions, de ce qu'il fait, et le contenu qui vient en fait directement de la marque.
Parce que tout ça est parfois mélangé.
Sponsorisé.
Exactement. C'est du placement de produit.
Voilà, exactement. Ça peut tout à fait s'apparenter au placement de produit. L'idée, effectivement, c'est que la marque s'insère naturellement dans un contenu qui est le contenu de l'influenceur. Donc, ça veut dire que la marque s'adapte en quelque sorte au ton, à la façon de parler, au sujet d'intérêt de l'influenceur, et met en fait des éléments de sa marque, des visuels. L'idée étant aussi pour le follower de se projeter dans l'utilisation, dans le fait de porter un vêtement dans la vie quotidienne et de le voir en plus, on va dire, mis en scène dans un cadre un peu idéal et porté par des personnes que le follower admire.
Alors, est-ce que vous dites, comme l'UFC Que Choisir et les associations de consommateurs qui alertent en parlant, attention, d'arnaques, de produits vendus via ces réseaux sociaux qui sont parfois jamais reçus, de tromperies sur leur contenu, de marques douteuses, de sites chinois déguisés en sites français sans aucun service après-vente derrière, c'est fréquent tout ça?
Alors, ça arrive, mais il faut comprendre quand même que, en fait, pour l'influenceur, ce qui fait sa valeur sur, on va dire, le marché, ce qui fait son attractivité auprès des marques, c'est sa communauté et c'est en fait la confiance que la communauté peut avoir en lui, en quelque sorte. Donc en fait, le fait de s'amuser, on va dire, je peux dire ça, à vendre des produits qui ne sont pas conformes à la photo ou à l'image, à effectivement aller finalement vendre des produits qui ne sont pas encore disponibles et ensuite aller les tourter auprès de fournisseurs chinois. Vous comprenez bien que du point de vue du client, en fait, le résultat est plutôt peu satisfaisant et donc il va se détourner de cet influenceur. Ce qui veut dire que c'est très court-termiste et que à moyen ou long terme, finalement, l'influenceur risque de perdre ce qui fait sa valeur, qui est justement l'engagement de sa communauté, la capacité, quelque part, à engager sa communauté et à faire en sorte que sa communauté le suive dans ses préconisations.
Mais est-ce qu'à l'inverse, les marques ne peuvent pas profiter d'une forme de naïveté chez ces internautes qui sont souvent assez jeunes, qui sortent parfois de la télé-réalité, qui ont aussi l'appât du gain, il faut bien le dire.
Tout à fait. Il faut aussi voir qu'il y a différents niveaux d'influenceurs. Effectivement, il y a ceux qui sont peut-être moins, on va dire, professionnalisés. Il faut savoir qu'il y a 80% des influenceurs qui ont plutôt une communauté jusqu'à 100 000 followers. Donc, on est sur des communautés qui peuvent être, on va dire, restreinte. Et on n'a que 5% des influenceurs qui sont à plus de 500 000, qui vont jusqu'à 1 million, et effectivement qui jouent dans une autre cour, qui sont, on va dire, des professionnels de l'influence. Donc effectivement, on peut se dire que du point de vue de la marque, elle peut utiliser finalement ces influenceurs avec des budgets restreints pour aller toucher une cible qu'elle a du mal à toucher.
Guerlaine de Kervillers, est-ce que tout cela est suffisamment encadré aujourd'hui? Par exemple, il n'est pas toujours mentionné qu'il s'agit d'un partenariat ou d'une publicité. Il y a des postes qui peuvent être trompeurs.
Voilà, c'est en train de se professionnaliser. Donc, en fait, il y a une instance qui s'appelle l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui fait effectivement office de régulateur et d'autorité en matière d'influence. Mais aujourd'hui, elle n'a pas de pouvoir contraignant. Elle n'a qu'un pouvoir de recommandation. Donc effectivement, elle indique qu'un annonceur doit indiquer sur le site de l'influenceur que effectivement c'est un contenu à caractère sponsorisé. Aujourd'hui, quand même, Instagram demande ses influenceurs d'avoir une sorte de tag « paid partnership with » depuis 2017. Donc, les
n'est pas toujours respecté, c'est justement le
mais
problème.
Voilà, c'est pas toujours respecté, mais c'est vrai que les plateformes, les marques et les les régulateurs se rendent compte de la nécessité de mieux encadrer en fait cette pratique qui se développe et qui devient finalement presque majoritaire dans la publicité.
Et vous le disiez vous-même, c'est aussi l'objectif que ça ne se voit pas trop que ce soit de la publicité, parce que c'est justement pour ça que ça marche, que vous nous expliquiez en début d'interview. Merci pour vos précisions, Gwarlane de Kervillers. Merci d'être venu nous éclairer ce matin sur ce monde donc, des influenceurs sur Internet. Je rappelle que vous êtes spécialiste en marketing digital, professeur à l'IESSEG. Merci à vous, bonne journée.
Et bien, je vous en prie, merci de cet échange. Bonne journée, au revoir.
Europe 1. Il est 6h10 sur Europe 1 et c'est l'heure de mettre en lumière ceux qui font bouger la France à travers nos régions. C'est avec vous, Lénaïque Monnier. Où est-ce qu'on va ce matin ?
On va à la SPA parce que demain, c'est la journée mondiale de l'abandon des animaux domestiques et c'est l'occasion de lancer une campagne Very Cat Trip.
A tout de suite sur Europe 1. Bon, allez.
Europe 1, Sébastien Krebs.
5h50, très bon réveil à vous tous. L'actualité ce matin sur Europe 1. C'est Nicolas Sarkozy, sa parole est rare. À deux jours des élections régionales, Nicolas Sarkozy qui prend la parole pour apporter son soutien au sortant Renaud Muselier en région PACA. Et il s'en prend dans une interview à Nice ce matin au candidat du Rassemblement National, Thierry Mariani. L'incarnation, selon lui, de la trahison des engagements. La Hongrie n'a plus rien à faire dans l'Union européenne. Les mots du Premier ministre néerlandais, c'était hier lors du sommet européen au cours duquel il a été question de la loi anti-LGBT votée à l'initiative de Viktor Orban à Budapest. Et puis cascade de blessés au sein de l'équipe de France de foot après Lucas Digne et Lucas Hernandez touchés lors du match contre le Portugal. Ce sont Thomas Lemar et Marcus Thuram qui ont souffert à l'entraînement, douleur à la jambe semble-t-il. Les Bleus ont jusqu'à lundi pour se préparer au 8e de finale contre la Suisse.
Écoutez le monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
Allez, c'est l'heure de la France bouge avec vous, Lénaïque Monnier. Nous allons donc dans les SPA de France.
Oui, c'est l'un des derniers week-ends avant les grands départs en vacances. Et comme chaque année, des animaux seront laissés au bord de la route. Alors cette année, la SPA a changé sa façon d'interpeller les Français avec un clip de campagne, Very Cat Trip, en référence évidemment au film où une bande de copains se remémore une soirée bien arrosée à coups de flashback. Tout le monde l'a vu. Là, le héros est un peu différent. Il s'appelle Grisouille, c'est un petit chat. Heureux, il vit dans un foyer aimant et attentionné. Mais un jour, ses angoisses ressurgissent. Sa famille est sur le point de partir en vacances.
Oh, j'y crois pas. Ils partent en vacances, ils vont m'abandonner comme l'autre famille.
Allez, viens mon Grisou, c'est l'heure.
Je m'attraperai pas. Ah, tu skips. Tommy, non, pas toi, Tommy. Calme-toi. Comment tu peux me faire ça? Non, pas la cage, pas la cage.
Pourquoi me sortir du refuge pour me faire ça, un an après?
Alors tout se termine bien pour le petit Grisou. En fait, ses nouveaux maîtres ne sont pas comme les précédents. Cette année, il ne sera pas au refuge, mais bien en vacances. Mais ce n'est pas le cas de 15 000 animaux qui seront abandonnés rien que cet été.
Ouais, cette campagne est plutôt innovante. Hein.
Oui, c'est une vidéo plus légère qu'à l'accoutumée, moins tire-larmes, moins culpabilisatrice aussi, puisqu'elle tend à sensibiliser notamment les plus jeunes, en particulier à une chose. Même si votre chat semble parfois, souvent, indifférent ou très autonome, c'est un dangereux cliché de se dire qu'il peut se débrouiller seul pendant que vous n'êtes pas là. C'est un animal domestique et par définition il dépend de ses maîtres, que ce soit pour la nourriture, pour l'eau, pour jouer, pour être caressé. Et autre point important pour cette campagne, cette année la SPA s'est associée à Airbnb qui propose une sélection de logements de vacances pet friendly, c'est-à-dire où on accepte les animaux, ce qui n'est pas très fréquemment le cas.
Ce qui n'est pas toujours le cas, ouais. C'est les animaux de compagnie dans les locations de vacances. Voilà, attention, c'est important de porter ces messages avant les vacances d'été où il y a chaque année des recrudescences d'abandon d'animaux domestiques. Lénaïque Monnier, merci à vous. 5h53, qu'est-ce qui anime les réseaux sociaux, Martin Lange ?
Eh bien, ce sont les dizaines de témoignages de jeunes étudiants qui viennent de finir leur licence, c'est les trois premières années d'études supérieures, et qui ne trouvent pas de place en master pour la suite de leur cursus. Ils sont réunis sous le hashtag étudiants sans master sur Twitter. Alors, je vous donne un exemple. Mac explique avoir terminé sa licence avec 13 de moyenne et une mention assez bien, mais aucun master ne l'accepte, un dossier insuffisant, et elle est loin d'être la seule. Hein. Lou, elle, a validé sa licence avec 15 de moyenne, mais toujours pas de master non plus. Elle en vient à se demander à quoi ça a servi d'étudier. Camélia, elle avait carrément 18 de moyenne, mais pareil, aucune perspective, comme Jade, Evan et des centaines d'autres. Ils sont soutenus par des personnalités, hein, comme le magistrat Youssef Badr. Hein. Avant, on finissait nos études et on tentait un concours. Aujourd'hui, on les commence et on n'est même pas sûr de les terminer.
Ouais, c'est assez fou, donc c'est pointé du doigt, c'est le manque de place dans ces filières.
Ouais, tout à fait, hein. Je vous donne un autre autre exemple, celui de Clarisse. Elle voulait intégrer un master de droit pénal à Nantes, mais il y a 3000 candidatures pour seulement 35 places. Ça fait vraiment pas beaucoup. Hein. Forcément, il y a de quoi être dégoûté par ce système, ce sont ses mots. Et certains étudiants pointent une fois de plus le manque de moyens dans les universités à l'origine, selon eux, de ce manque de places.
On sait combien d'étudiants sont réellement concernés par ces situations ?
Et bah précisément, c'est difficile à dire, hein, mais on sait que leur nombre augmente chaque année, hein, car ceux qui sont dans cette situation peuvent se signaler auprès de la plateforme trouvermonmaster.gouv.fr. J'invite d'ailleurs ceux qui nous écoutent à le faire. L'an dernier, les signalements sur cette plateforme ont explosé, plus 129% par rapport à 2019, avec plus de 11 000 saisines. Il faut rappeler aussi qu'un décret signé en mai dernier oblige les recteurs à trouver une formation à tous les titulaires d'une licence qui n'auraient pas de master. Ça s'appelle le droit à la poursuite d'études.
Mmh, ouais. Et ça concerne des étudiants qui ont parfois eu des bonnes notes.
Ah, en plus. Tout à fait, jusqu'à 18. Voilà. Enfin, en tout cas, dans les témoignages recueillis sur Twitter.
On va suivre cette histoire donc, et les réseaux sociaux se sont saisis de ces cas-là. Merci à vous. Martin Lange, 6h05. Ondelat raconte, vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelat à 14h. L'histoire du jour, c'est celle de Marie-Christine Odo. En 2009, dans l'Essonne, la joggeuse est enlevée, violée, tuée. Une affaire qui choque l'opinion publique et pousse le gouvernement à débattre de la récidive. Ondelat raconte à 14h, mais dès maintenant. Vous avez le podcast sur europe1.fr.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Et bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Notre planète avec vous, des initiatives qui changent la donne sur l'environnement chaque matin. Ce matin, des panneaux solaires, Fanny, des panneaux photovoltaïques, mais assez particuliers parce qu'ils flottent.
Oui, des panneaux photovoltaïques flottant sur la commune de Piolenc, une première en France. S'il existe de nombreux exemples pour illustrer la révolution énergétique en cours, et notamment dans l'énergie solaire, celui-ci est vraiment remarquable. Cette petite ville du Vaucluse a transformé 50 hectares d'une ancienne carrière engloutie par les eaux d'un lac en parc de panneaux photovoltaïques flottants. Aujourd'hui, c'est 47 000 panneaux, de quoi alimenter plus de 4 300 foyers, soit bien plus que n'en compte la commune. Les projets de centrales flottantes se multiplient d'ailleurs en France, car c'est une manière d'éviter les conflits de voisinage que peuvent générer les champs de panneaux solaires habituellement construits sur la terre ferme et qui peuvent parfois occuper des terres agricoles.
Oui, parce que c'est vrai que ces dispositifs, que ce soit les panneaux solaires, les éoliennes, c'est pas toujours très bien accueilli. Et d'ailleurs, les énergies renouvelables font débat avec un certain scepticisme quant à leur rentabilité et à leur efficacité.
En effet, il y a en ce moment plusieurs ouvrages qui critiquent l'énergie renouvelable, surtout l'éolien et le solaire, en mettant en avant leur côté intermittent, leur coût élevé et leur manque de retour sur investissement. La réalité est que ces questions ont trouvé des réponses. Pour chaque territoire, il y a des énergies renouvelables adaptées. Ce qui est intéressant, c'est de bien les choisir et de travailler surtout avec les acteurs locaux. L'énergie solaire n'est ni trop chère ni peu rentable. Selon la Cour des comptes, les projets d'énergie solaire retenus dans le dernier appel d'offres du gouvernement produiront de l'électricité à 53 euros le mégawatt par heure, ce qui correspond à la fourchette haute du prix de l'énergie nucléaire et moins de la moitié du coût de l'électricité produite par l'EPR de Flamanville.
Ouais, mais le constat, Fanny, c'est que la France est à la traîne dans le développement de l'énergie solaire.
Oui, on traîne pour atteindre les objectifs que le gouvernement s'est fixés en termes de production solaire. Si nous souhaitons respecter la programmation pluriannuelle de l'énergie, il faudrait installer de l'électricité solaire 4 fois plus vite que ce que nous faisons depuis 2 ans. Ce n'est pas seulement les entreprises du renouvelable qui disent que c'est urgent. L'Agence internationale de l'énergie, qui est connue pour ses positions assez précautionneuses sur la transition énergétique, vient elle-même de publier un rapport expliquant que nous devons entrer dans l'ère des énergies renouvelables à la fois pour préserver le climat, mais aussi pour rendre notre économie plus performante.
Merci à vous. Fanny Agostini, à lundi.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs. Écoutez le monde changer.
Presque 6h du matin sur Europe 1. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Très bon réveil. Alors c'est un week-end chargé qui démarre. Hein. Chargé sur le plan sportif. Finale du top 14 en rugby. Départ du Tour de France demain. Début des 8e de finale de l'Euro. On va y revenir, hein, le journal des sports dans 10 minutes. Et au milieu de tous ces événements sportifs, bah, n'oubliez pas quand même d'aller voter. Il y aura les élections régionales. Deuxième tour dimanche. Y aura-t-il un sursaut de participation? On va balayer un peu tous les enjeux de ce second tour tout à l'heure à 6h40 avec mon invité Bernard Sananès sera en direct avec nous, le président de l'Institut ELAB. Avant le journal de 6h, la météo, Laurent Cabrol, c'est à vous.
Eh bien, on va essayer de balayer aussi notre ciel, mais on n'y arrivera pas beaucoup. Tout de même, j'ai une impression plutôt agréable. Aujourd'hui, c'est une journée entre deux, comme je le disais tout à l'heure. Que des pluies arriveront dans le courant de la matinée sur les côtes de la Manche. Elles vont progresser dans l'après-midi et la soirée vers Paris, vers l'Orléanais, le centre. Et puis, nous aurons du soleil en Méditerranée. Entre ces deux types de temps très marqués, notamment sur le Poitou-Charentes, le Massif central, la Bourgogne, la Lorraine et Rhône-Alpes, ce sera assez agréable. Les températures restent bien fraîches pour la saison, entre 19 et 23 au nord et entre 29 et 30 au sud.
Laurent Cabrol, on vous retrouvera tout à l'heure, juste avant 6h30. A tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Allez, tout de suite, votre journal sur Europe 1. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.